Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Psachim, page 90, Daf Tzadik. Bonne écoute et bon limoud.
Amar Abaye, alors Abaye a dit, il a de Okme Rabbi Oshaye Lahi. Si Rabbi Oshaye n'avait pas établi cette Mishnah, Bememanezonal Pisro, dans le cas d'une personne qui nomme une prostituée sur son sacrifice de Pessah, Verebi, et que cela suit l'opinion de Rebi, Ava Mukmina Lehaï Bekotchim. Alors moi j'aurais établi cette Mishnah dans des Kotchim Kalim, c'est-à-dire des sacrifices qui sont saints au premier degré, Valiba de Rabbi Yossi Aglili, et d'après l'opinion de Rabbi Yossi Aglili, Dahamar qui a dit, Kotchim Kalim Mamon Baalim U, que les sacrifices qui sont saints au premier degré, ça appartient au propriétaire. Et il veut expliquer. Il y a une loi qui nous dit que l'on n'a pas le droit de sanctifier le salaire d'une prostituée. Si par exemple quelqu'un a eu des relations avec une prostituée et lui a payé avec une bête, cette prostituée n'aura pas le droit de sanctifier cette bête pour en faire un sacrifice. Et il y a une Mishnah plus loin qui nous dit que dans le cas où une personne a sanctifié une bête en tant que sacrifice, par exemple il a dit ça sera un sacrifice rémunératoire. Puis après il a eu des relations avec une prostituée et qui lui a donné cette bête en contrepartie de sa relation, c'est-à-dire il lui a donné cette bête qui est un sacrifice en tant que salaire pour sa relation avec cette prostituée. Alors la Mishnah nous dit que cette bête, dans un cas pareil, n'est pas interdite, car elle était sacrifice déjà avant d'avoir été donnée à la prostituée. Alors la Gemara demande, et il y a un verset spécial qui nous dit cette chose-là. Alors la Gemara demande, ça veut dire que seulement c'est parce qu'il y a un verset spécial. Mais s'il n'y avait pas eu de verset, j'aurais pu penser que cette bête est interdite à être offerte au temple, même si elle a été offerte en tant que sacrifice avant d'avoir été donnée à la prostituée. Comment est-ce possible de faire une chose pareille? Quelqu'un n'interdit pas quelque chose ne lui appartenant pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment que cette personne a sanctifié cette bête et a dit que c'est un sacrifice, ça ne lui appartient plus, ça appartient au temple. Et donc même lorsqu'il la donne à la prostituée en contrepartie de sa relation, c'est-à-dire en tant que salaire, il ne peut pas interdire cette bête à être offerte au temple, car il ne peut pas interdire quelque chose ne lui appartenant pas. Et là-dessus, la Gemara répond au nom de Rabbi Oshaye, et c'est exactement ce que Abaye rapporte maintenant, que au nom de Rabbi Oshaye, la Gemara répond que cette braïta nous parle du sacrifice de Pessah, et suivant l'opinion de Rebbi. Car Rebbi, et la Gemara rapporte que Rebbi pense qu'une personne a le droit de vendre des parties du sacrifice de Pessah et en contrepartie recevoir de l'argent et cet argent lui appartiendra. C'est-à-dire qu'il y a un verset spécial qui nous dit qu'en fait, le sacrifice de Pessah, bien que dès qu'il a été sanctifié, on a le droit d'en vendre des parties et l'argent lui appartient. C'est-à-dire que même après la sanctification, il continue à appartenir au propriétaire de ce sacrifice. Et c'est pour cela que l'on a le droit d'en vendre des parties. Et donc, si maintenant une personne a eu une relation avec une prostituée et en salaire il lui donne une partie du sacrifice de Pessah, étant donné que le sacrifice de Pessah lui appartient, il peut l'interdire. Et donc automatiquement la partie qu'il donnera à la prostituée s'appelle le salaire d'une prostituée et on n'a pas le droit de l'offrir sur l'autel. Et donc c'est pour cela que s'il n'y avait pas eu un verset spécial, j'aurais pu penser que dans un cas pareil, bien que la bête a déjà été sanctifiée, ça s'appelle le salaire d'une prostituée et on n'a pas le droit de l'offrir sur l'autel. Et donc ça, Abaye rapporte la réponse de Rabbi Oshaya sur la Mishnah. Et donc d'après cette réponse, nous pouvons aussi comprendre ce que nous avons vu plus haut. Car en fait, Rabbi Oshaya explique les paroles de Rebbi en disant qu'une personne qui sanctifie son sacrifice de Pessah, le sacrifice continue à lui appartenir et il a le droit d'en vendre des parties. Et donc c'est pour cela que si une personne a sanctifié son sacrifice de Pessah et qu'une autre personne a sanctifié l'argent, lorsque la personne qui a sanctifié l'argent pour son sacrifice de Pessah paye aux personnes qui a sanctifié le sacrifice de Pessah, l'argent devient profane. Car en fait, le propriétaire du sacrifice de Pessah lui vend une partie de son sacrifice. Mais Abaye lui dit que si Rabbi Oshaye n'avait pas répondu comme ça et n'avait pas expliqué comme ça la Mishnah, lui l'aurait expliqué différemment. Il aurait expliqué que cette Mishnah, qui à propos du salaire de la prostituée, nous parle de Kodashim Kalim, c'est-à-dire des sacrifices qui sont saints au premier degré, comme par exemple un sacrifice rémunératoire, et que cette Mishnah suit l'opinion de Rabbi Yossi Aglili, qui dit que tous les sacrifices qui sont au premier degré de sainteté continuent à appartenir à leur propriétaire. Et donc, puisqu'ils continuent à appartenir à leur propriétaire, c'est pour cela que s'ils le donnent en tant que salaire à une prostituée, alors ce sacrifice aurait pu devenir interdit s'il n'y avait pas eu un verset spécial. Et donc, si on établit comme ça la Mishnah, suivant l'opinion de Rabbi Yossi Aglili, à nouveau revient à la question, comment une personne qui a sanctifié de l'argent pour son sacrifice de Pessah, comment cet argent devient profane? Et là-dessus, Abaye explique qu'il aurait dit que les Kodashim Kalim, les sacrifices au premier degré de sainteté, ils continuent à appartenir au propriétaire. Aval be Pessah, et nous continuons la Gemara, mais le sacrifice de Pessah, l'homme est chayerinish. Les gens n'en laissent pas une partie profane, et lorsqu'ils le sanctifient, il est entièrement saint. Et donc à nouveau revient la question, comment cet argent alors, qu'on a donné en partie du sacrifice de Pessah, devient profane? Et là, il y a la réponse, Bemaot vadai meshaer inish. Mais l'argent, lorsqu'une personne sanctifie de l'argent pour son sacrifice de Pessah, alors il pense dans sa tête, et il dit qu'il laisse une partie de cet argent profane, au cas où il va acheter une partie du sacrifice de Pessah de quelqu'un. C'est-à-dire, il se dit, si j'achète une bête, alors cet argent est entièrement sain, et lorsque j'achèterai la bête, la sainteté de l'argent passera sur la bête. Mais si j'achète une partie du sacrifice à quelqu'un, je n'achète pas une bête entière, alors à ce moment-là, cet argent restera profane. Et donc, lorsqu'il le donnera au propriétaire de la bête avec laquelle il s'associe, il lui donne de l'argent qui est profane. Des mekara, car depuis le début, qui m'affriche Léo, lorsqu'il prélève cet argent, adata de achim m'affriche Léo, c'est avec cette intention que si il achète une partie d'une bête avec une autre personne, alors l'argent restera profane. Veha, rebi. Et donc, cette braïta que nous avons vu plus haut, qui nous dit que l'argent devient profane, suit l'opinion de rebi. Umishumachi, maot shebeyado chulin. Et c'est pour cela que l'argent que le propriétaire de la bête reçoit entre ses mains, cet argent est profane. Ubemaot vadai mesherinish. Car c'est sûr que dans l'argent, les gens, lorsqu'ils prélèvent l'argent, ils pensent à laisser une partie de cet argent profane au cas où ils n'achèteraient pas une bête, mais s'ils s'associent avec quelqu'un d'autre. Veide kamuke la rabbi Oshaya, kerebi. Et cette Mishnah que rabbi Oshaya a établi suivant l'opinion de Rebi, c'est-à-dire la Mishnah qui nous dit, qui nous parle de la loi concernant le salaire d'une prostituée, l'homme ukmina leana kerebi. Moi, Abaye, je ne l'établis pas comme Rebi, mais comme Rabbi Yossi Aglili, comme nous l'avons vu plus haut. Et pourquoi je ne peux pas l'établir comme Rebi? Debe Pessah, l'homme est chayerinish. Car, à propos du sacrifice de Pessah, lorsqu'une personne sanctifie sa bête pour le sacrifice de Pessah, il n'en laisse pas une partie profane. Et donc, à partir du moment où il a sanctifié, cette bête est considérée ne lui appartenant pas. Et même s'il nomme une prostituée sur son Pessah en tant que salaire pour la relation qu'il a eue avec elle, malgré tout, la bête n'est pas interdite, car une personne ne peut pas interdire quelque chose ne lui appartenant pas. Veha. Et cette braïta que nous avons vue plus haut, et nous avons sauté ici les parenthèses, cette braïta que nous avons vue plus haut, qui nous dit que l'argent qu'il a entre ses mains est profane, leika leukume ke Rabbi Yossi. Cette braïta, on ne peut pas l'établir suivant l'opinion de Rabbi Yossi. Data neba, car nous avons enseigné exclusivement dans cette braïta, va mocher olato ushlamav, et celui qui vend son sacrifice holocauste et son sacrifice rémunératoire, lo asav eloklum, il n'a rien fait. Or, d'après Rabbi Yossi Aglili, le rémunératoire est un sacrifice au premier degré de sainteté, et donc il continue à lui appartenir, il continue, même après la sanctification, et donc normalement il aurait la possibilité de le vendre. Et donc si dans cette braïta nous disons qu'il n'a pas le droit de le vendre, c'est comme s'il n'a rien fait lorsqu'il le vend, donc ça veut dire que cette braïta ne suit pas l'opinion de Rabbi Yossi Aglili. Donc ça, c'est ce que Abaye aurait dit s'il n'y avait pas eu la réponse de Rabbi Oshaya. C'est-à-dire que lui, il aurait dit que la Mishnah qui nous parle du salaire d'une prostituée suit l'opinion de Rabbi Yossi Aglili, et notre braïta à nous suit l'opinion de Rebi, et que la bête, lorsqu'on sanctifie la bête est entièrement sainte et continue et ne lui appartient plus à partir de la sanctification, mais lorsque quelqu'un sanctifie l'argent, il laisse une partie de cet argent profane. Ça, c'est ce qu'Abaye aurait dit sans la réponse de Rabbi Oshaya. ואשתה דוקמי רבי הושעיה להעיב ממנזון על פסחו, ממנו כרבי הושעיה ההתאבלי למשנה, כי נופר לסעיה דין פרוסטיטואה, דן לוקה דין כלכן, qui nomme une prostituée sur son sacrifice de Pessah en contrepartie de la relation qu'il a eue avec elle, verebihi, et que cette Mishnah suit l'opinion de Rebi, shmamina desvirale. Alors ça sous-entend qu'en fait, Rabbi Shaya pense dans l'opinion de Rebi, afilo bepisro mesha'erinish, que même lorsqu'une personne sanctifie son sacrifice de Pessah, il en laisse une partie profane pour pouvoir le revendre et l'utiliser pour ses propres besoins. Et donc c'est pour cela que s'il nomme une prostituée sur son sacrifice de Pessah en contrepartie de la relation qu'il a eue avec elle, il lui donne en fait quelque chose lui appartenant, et donc c'est pour cela qu'il pourrait l'interdire, sauf s'il n'y avait pas eu de verset explicite. Et donc maintenant, même la Braïta que nous avons enseignée plus haut, qui nous dit que l'argent qu'il a entre ses mains est profane, suit l'opinion de Rebbi. Car lorsqu'il a, le propriétaire de la bête a sanctifié cette bête, il a laissé une partie de la bête profane pour pouvoir la revendre pour ses besoins. Et donc c'est pour cela que la personne qui a sanctifié l'argent, lorsqu'il a acheté une partie de la bête, donc en fait, il fait passer la sainteté qu'il y avait sur l'argent sur la partie profane de la bête, sur la partie que le propriétaire de la bête avait laissée profane. Maintenant la Gemara demande, Maï de Rabbi Hoshaya. Quel est cet enseignement de Rabbi Hoshaya que nous avons parlé jusqu'à maintenant et que Abaye a rapporté? Dinan, car nous avons enseigné dans une Mishnah. Et ici, la Gemara nous rapporte la Mishnah sur laquelle nous avons parlé plus haut. Natana Mugdashim Bet Nana. Il lui a donné des sacrifices en salaire. Harel ou Mutarin, ces sacrifices auront le droit d'être offerts au temple, sur l'autel. Au faute des Choulines, par contre, s'il lui a donné des oiseaux profanes à cette prostituée, Arel ou Asourine, ces oiseaux seront interdits, on n'aura pas le droit de les offrir en tant que sacrifice. Shaya Benin, car ici il y avait un raisonnement. Umaim Mugdashin Shayamum Posel Baem, si déjà les sacrifices, s'ils ont un défaut, alors ils deviennent invalides et on ne peut plus les offrir sur l'autel. En Ednanum Mechir Halaleem. Par contre, étant donné qu'ils ont déjà été sanctifiés, la loi du salaire d'une prostituée et du prix d'un chien ne se rapporte pas sur eux, et c'est le prix d'un chien, c'est de même qu'il est interdit d'offrir au temple le salaire d'une prostituée, il est interdit d'offrir le prix d'un chien. Si par exemple quelqu'un a échangé un chien contre une vache, on n'aura pas le droit d'offrir cette vache au temple. Alors ces deux lois ne s'appliquent pas dans le cas où la bête a déjà été sanctifiée. Alors j'aurais pu penser que, au faute, les oiseaux, dont il n'y a pas, dont le défaut n'empêche pas de les offrir sur l'autel. Et même s'ils ont un défaut, il n'est pas interdit de les offrir sur l'autel. Alors, Enodin, Shenetnanu Mechir Halalem, alors n'est-ce pas à plus forte raison que la loi concernant le salaire d'une prostituée et le prix d'un chien ne se rapporte pas sur eux? Talmud Lomar, sur ça le verset nous dit. Donc en fait, j'aurais pu un raisonnement qui aurait pu me dire que les lois concernant le salaire de la prostituée ne se rapportent pas sur les oiseaux, Talmud Lomar, le verset nous dit, l'échol neder, pour tout vœu, les rabots et taofot, ça vient inclure même les oiseaux, pour tous les vœux. En maintenant, la Gemara nous dit, alors si c'est ainsi que nous avons inclus que même les oiseaux, il sera interdit de les offrir si ce sont les salaires d'une prostituée. Alors, kalvachomer la mugdashimata. Alors maintenant, on peut faire un raisonnement a fortiori sur les sacrifices. Comment cela? Ma'ofot she'enamum posel ba'em, si déjà les oiseaux, lorsqu'ils ont un défaut, alors ce défaut ne les rend pas invalides et on a le droit de les offrir sur l'autel. Etnanu mechir halalem, et malgré tout, la loi concernant le salaire d'une prostituée et le prix d'un chien se rapporte sur eux. Alors mugdashim she'enamum posel ba'em, alors les sacrifices qui eux, s'il y a un défaut dans la bête, alors à plus forte salé rend invalide d'être offert sur l'autel. Alors, enodin, chetnanu mechir halalem, n'est-ce pas à plus forte raison que les lois concernant le salaire d'une prostituée et le prix d'un chien se rapportent aussi sur eux? Et donc, même si j'ai donné une bête qui est un sacrifice à une prostituée, or, normalement, cette bête devrait être interdite. Talmud Omar, le verset nous dit, l'échol neder pour tout vœu, prad le nadour, ça vient nous exclure quelque chose qui a déjà été fait en tant que vœu. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le droit d'offrir en vœu le salaire d'une prostituée. Mais si c'est quelque chose qui a déjà été offert en vœu, qui a déjà été sanctifié, alors ça, il n'y a pas de problème. Et donc c'est pour cela que s'il a donné un sacrifice à une prostituée en tant que salaire, ce sacrifice sera malgré tout permis d'être offert sur l'autel. Alagma demandait là, ta'ama de katavrachmana neder. Alors en fait, toute la raison est parce que la Torah est écrite pour tout vœu et ça vient exclure quelque chose qui a déjà été fait, offert en tant que vœu. Halavachi, mais s'il n'y avait pas eu ce verset, hava amina, j'aurais pu penser, mukdashim chalisuret nanalem, que si on a donné un sacrifice à une prostituée, alors l'interdit du salaire d'une prostituée se rapporte sur eux et on n'aura plus le droit d'offrir cette bête sur l'autel. Pourtant, on avait une loi qui nous dit qu'un homme ne peut pas interdire quelque chose ne lui appartenant pas. Or, cette bête, à partir du moment où il a sanctifié, ne lui appartient plus. Amar Rabbi Ushaye, alors Rabbi Ushaye a dit, et ça, c'est le Rabbi Ushaye qu'Abaye rapportait plus haut et avec lequel nous avons débuté le shiur. Ici, nous parlons du cas de quelqu'un qui nomme une prostituée sur son sacrifice de Pessah en contrepartie d'une relation qu'il a eue avec elle. Verebi. Et cette Mishnah suit l'opinion de Rebi qui dit que l'on a le droit d'utiliser le sacrifice de Pessah pour ses besoins personnels. Et donc ici, il a nommé une prostituée sur le sacrifice de Pessah. Donc en fait, il avait le droit puisque le sacrifice de Pessah lui appartenait. Et donc c'est pour cela que j'aurais pu penser que le sacrifice de Pessah devient interdit s'il n'y avait pas eu de verset. L'Agma demande, Maï Rebi, quel est ce Rebi, c'est-à-dire où c'est qu'il a été enseigné? Des Tanya, quand nous avons enseigné dans une Braïta. Im yimaet abait miyot mise. Si la maisonnée n'est pas suffisante pour un agneau, alors il est dit dans le verset que plusieurs personnes se rassembleront et ensemble achèteront un agneau. Mais ici, nous allons voir dans cette Braïta que nous étudions le mot miyot mise. La traduction littérale de miyot mise, c'est d'être un agneau. C'est-à-dire si la maisonnée n'est pas suffisante pour être un agneau. Alors de là, nous apprenons et nous étudions le mot mihiyot différemment et nous utilisons en fait le verset complètement un peu différemment que im nimaet abait, s'il n'y a pas suffisamment de choses dans sa maison, alors achieu mise, fais-le revivre de l'agneau. C'est-à-dire en fait, il a le droit de vendre les parties de l'agneau pour utiliser des choses qu'il a besoin pour vivre. Et donc mirde achila, les choses qu'il a besoin de manger pour manger. Velo mirde mekar, mais pas des choses qu'il a besoin pour faire des affaires. Ça, c'est l'opinion des sages. Rebi Omer, Rebi dit, av mirde mekar, même pour acheter des choses, pour faire des affaires, il aura le droit de vendre l'agneau du sacrifice de Pessah. Shim enlo, car s'il n'a pas suffisamment d'argent, que fait-il? Memane acher imo al pisro, il nommera quelqu'un d'autre avec lui sur son sacrifice de Pessah, veal chagigato, et sur son sacrifice chagiga, umaot shebeyado chulin, et l'argent qu'il reçoit en contrepartie de la partie qu'il a donnée à cette personne sera profane. Chez Almenat Ken, Igdishu Israël et Bisraël. Car c'est avec une telle condition que les Béné Israël ont sanctifié leur sacrifice de Pessah, c'est-à-dire c'est à condition qu'ils puissent en vendre des parties. Et maintenant, sur cette opinion de Rebi, Rabba et Rabzira. Il y a une discussion entre Rabba et Rabzira. Chadamar, Beitzim, Letzliato, Kula, Alma, Lopligé. Un de ces deux rabbinim m'a dit qu'à propos du bois pour la cuisson du sacrifice de Pessah, d'après tout le monde, il n'y a pas de discussion qu'on a le droit de vendre le sacrifice de Pessah pour en acheter le bois. De vendre une partie du sacrifice de Pessah pour acheter le bois pour le griller. Pourquoi? De kevan de takanda de Pessahou, car étant donné que c'est pour pouvoir faire le sacrifice de Pessah comme il se doit, kegoufa de Pessah d'Amé, c'est comme le sacrifice de Pessah en lui-même, et donc c'est sûr que l'on a le droit de vendre une partie du sacrifice de Pessah pour pouvoir acheter du bois pour le griller. Qui plie la discussion entre Rebi et Rabbanan, ben matzah ou maror. C'est est-ce qu'on a le droit de vendre une partie du sacrifice de Pessah pour acheter de la matzah et des herbes amères? Rabbanan, c'est vrai, les sages pensent à achila achiteu. Ça, c'est une autre consommation et ce n'est pas lié au sacrifice de Pessah. Et donc on n'aura pas le droit de vendre une partie du sacrifice du Pessah pour pouvoir acheter de la matzah et des herbes amères. Ve Rebi savar et Rebi pense que van der shero de Pessah ou étant donné que c'est ce qui permet de manger le sacrifice de Pessah, que gouva de Pessah d'Amé, c'est comme le sacrifice de Pessah en lui-même. Car il est dit dans le verset, al matzot umurim yochlu, ils le mangeront avec des matzot et des herbes amères. qu'il y a une mitzvah de manger le sacrifice de Pessah avec des matzot et des herbes amères. Et donc, étant donné que c'est ce qui permet d'accomplir la mitzvah de manger le sacrifice de Pessah, on a le droit de vendre une partie du sacrifice de Pessah pour acheter des matzot et des herbes amères. Ça, c'est une première façon d'expliquer la discussion. Et l'autre, Rav, a dit que la discussion entre Rabbi et Rabbanan est sur un autre sujet. Même à propos de la matzah et des herbes amères, d'après tout le monde, il n'y a pas de discussion qu'on a le droit devant une partie du sacrifice de Pessah pour acheter de la matzah et des herbes amères. Dirtiv, car il est écrit, al matzot umrorim yochlo, avec des matzot et des herbes amères, ils le mangeront, des kevan, des marcherin, des pessah ninu. Et donc, étant donné que c'est ce qui permet de manger le sacrifice de Pessah, ça fait partie de la mitzvah du sacrifice de Pessah. Que Pessah damé, c'est comme le sacrifice de Pessah en lui-même. Qui pliguait la discussion entre Rabbi et Rabbanan, l'ikar bo chalouk, l'ikar bo talit, pour acheter un habit, pour acheter un vêtement. Est-ce qu'on a le droit devant une partie du sacrifice de Pessah pour s'acheter un vêtement? Alors Rabbanan, ça vrai, les sages pensent, il écrit mihiyot misé. Nous avons dit, c'est quoi mihiyot misé? C'est pour être un agneau. Alors Amar Rahmana, c'est la Torah qui a dit, et nous étudions ce mot comme cela, achye ou laisser, faire revivre l'agneau. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui permet de consommer le sacrifice de Pessah, l'agneau, alors on aura le droit de vendre le sacrifice, une partie du sacrifice de Pessah, pour l'acheter. Mais pas autre chose. Ve Rebbi Savar, et Rebbi pense, lui, il étudie comme ça le verset. Achiatzmecha mise, fais-toi vivre de l'agneau. C'est-à-dire, fais-toi toi vivre de l'agneau. Et donc, pour tous tes besoins personnels, tu as le droit de vendre une partie du sacrifice de Pessah pour pouvoir les acheter. Maintenant, la Gemara revient sur l'enseignement de Abaye que nous avons plus beau. Où le Abaye d'Amar, et d'après Abaye qui a dit, il a de Okmar Rabbi Oshaya, laïbe memanezon al pisro, si Rabbi Oshaya n'avait pas établi cette Mishnah dans le cas de quelqu'un qui nomme une prostituée, sur son sacrifice de Pessah, en contrepartie des relations qu'il a eues avec elle, vers Rebihi, et que cette Mishnah suit l'opinion de Rebihi, alors Rabbi Mukminala Bekodashim Kalim, valiba de Rabbi Seglili. Abaye aurait établi cette Mishnah, dans le cas de Kodashim Kalim, des sacrifices qui sont saints au premier degré de sainteté, et suivant l'opinion de Rabbi Yossi Aglili, de Amar qui a dit Kodashim Kalim, Mamon Ba'alimu, que les sacrifices qui sont au premier degré de sainteté continuent à appartenir aux propriétaires même après qu'ils ont été sanctifiés. Aval be Pessah, l'homme est chérinich. Et donc si ça avait été ainsi, lorsque quelqu'un sanctifie son sacrifice de Pessah, il n'en laisse aucune partie profane. Et le sacrifice de Pessah, à partir du moment où il a été sanctifié, il n'appartient plus du tout au propriétaire. Hakta, Nebedia, comment est-ce possible de dire une chose pareille? Pourtant, nous avons appris explicitement dans la Braïta, Shalmenat Ken, Igdishuet Israël et Pisrein. Lorsque Rabbi a dit qu'on a le droit de vendre une partie du sacrifice de Pessah pour en utile pour ses besoins personnels, Rabbi dit explicitement, car c'est dans cette condition que les Bnei Israël ont sanctifié leur sacrifice de Pessah, c'est-à-dire à condition d'en laisser une partie profane pour pouvoir en tirer profit s'ils en ont besoin. Alors la Gemara, et donc comment Abaye peut-il dire que le sacrifice de Pessah est entièrement sanctifié? Alors la Gemara répond, Ima shalmenat ken, igdishu Israël, ma'ot pisrei. Abaye lui dira que dans la Braïta, on dira que c'est pour dans des conditions pareilles que les Bnei Israël ont sanctifié l'argent avec lequel ils achètent le sacrifice de Pessah. Et à propos de l'argent, même Abaye est d'accord qu'une partie de cet argent reste profane au cas où on n'achète pas un sacrifice de Pessah, mais on s'associe avec quelqu'un et on achète une partie du sacrifice de Pessah. Mais le sacrifice de Pessah en lui-même, à partir du moment où il a été sanctifié, il est entièrement saint. Et la Mishnah suivante va nous parler maintenant de cas dont des personnes dont le dernier jour de purification tombe la veille de Pessah. Et il faut auparavant faire une petite introduction et expliquer. Il existe deux sortes de personnes. Il existe les aves et les avas. Les aves, ce sont des hommes qui ont eu un écoulement, qui n'est pas un écoulement de sperme, mais d'une matière ressemblant au sperme, et qui provient d'une maladie. Cet homme est appelé zav. S'il a eu un seul écoulement, il sera impur durant 24 heures. S'il y a eu deux écoulements, il sera impur durant 7 jours. S'il a eu trois écoulements, il sera impur durant 7 jours, et au 8e jour, il devra amener un sacrifice. Par contre, il existe la Zava, c'est une femme qui a eu un écoulement en dehors de sa période de menstruation, et elle a des lois différentes. Si elle a eu un écoulement, alors elle sera impure durant 24 heures. Deux écoulements, elle sera aussi impure durant 24 heures, c'est-à-dire suivant les deux jours où elle a eu l'écoulement. Donc elle sera impure le premier jour, le deuxième jour, et le troisième jour qu'elle gardera sans écoulement, en contrepartie du jour auparavant où elle a eu l'écoulement. Si elle a eu trois écoulements suivis, alors à ce moment-là, elle sera impure durant 7 jours, et le 8e jour, elle devra amener un sacrifice. Et donc la Mishnah nous dit, Zav Sherash Tereyot, un Zav, un homme qui a eu deux écoulements, Shochatim Alav Bashvi, on a le droit d'abattre pour lui le sacrifice de Pessah, lorsque la veille de Pessah tombe le 7e jour de sa purification. Car au soir, il sera pur, et au soir, donc, il aura le droit de manger le sacrifice de Pessah. Ra Shalosh, par contre, s'il a eu trois écoulements, Shochatim Alav Bashmini Shelo, on aura le droit d'abattre le sacrifice de Pessah seulement si la veille de Pessah tombe le 8e jour de sa purification, c'est-à-dire il a 7 jours, il s'est purifié, et le 8e jour, il devra amener son sacrifice. Donc, puisqu'il amènera son sacrifice au 8e jour, qui est la veille de Pessah, au soir, il aura le droit de manger le sacrifice de Pessah. Donc, c'est pour ça qu'on a le droit d'abattre pour lui le sacrifice de Pessah. Shomeret Yom Keneged Yom. Maintenant, une femme qui a eu un écoulement en dehors de la période de sa période de menstruation. Si elle garde un jour propre en contrepartie du jour où elle a eu un écoulement, Shochatim Aleha Bashenishela. On a le droit d'abattre le sacrifice de Pessah lorsque la veille de Pessah tombe le second jour de sa purification. C'est-à-dire, elle a eu un jour, elle a eu un écoulement, donc elle est impure. Elle devra garder le lendemain propre, vérifier qu'elle n'est pas d'écoulement, et au soir, elle sera pure. Donc, si ce lendemain, c'est la veille de Pessah, on aura le droit d'abattre pour elle le sacrifice de Pessah. Ra'ata Ashtei Yamim, si elle a vu deux jours de suite, si deux jours de suite, elle a eu un écoulement, Shochatim Aleha Bashlishi, on aura le droit d'abattre pour elle le sacrifice de Pessah lorsque la veille de Pessah tombe le troisième jour, c'est-à-dire les deux premiers jours, elle a un écoulement, et le troisième jour, elle le garde pas en contrepartie de ces jours où elle a eu un écoulement, et au soir, elle sera pure. Donc au soir, elle aura le droit de manger le sacrifice de Pessah. C'est pour cela que la veille de Pessah, on a le droit d'abattre pour elle le sacrifice de Pessah, même si maintenant elle n'est pas pure. Ve'hazava, par contre, une femme qui a eu trois écoulements, et donc qui est impure durant 7 jours, et le 8e jour devra amener un sacrifice, Shochatin Aleha Bashmini, on aura le droit d'abattre pour elle le sacrifice de Pessah, seulement si la veille de Pessah tombe le 8e jour de sa purification. Donc c'est-à-dire, 7 jours, il y a eu 7 jours de purification, elle s'est purifiée le 7e jour, et le 8e jour, elle devra amener son sacrifice. Et donc, lorsque la veille de Pessah tombe le 8e jour, le jour où elle doit amener son sacrifice, on aura le droit d'abattre pour elle le sacrifice de Pessah, même si elle n'a pas encore amené ses sacrifices. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda, on dit au nom de Rav. Shochatin vezorkim al dulyom ou mechusar kipurim. On a le droit d'abattre le sacrifice de Pessah et d'en jeter le sang sur l'autel pour quelqu'un qui est tvulyom, c'est-à-dire qui s'est purifié le jour même. Et donc, la journée de sa purification n'est pas finie. Et il y a une loi qui nous dit que normalement une personne comme ça n'a pas le droit de manger des sacrifices. Et lui aussi, donc, n'a pas le droit de manger des sacrifices. Mais étant donné qu'au soir, il aura le droit de manger le sacrifice, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a le droit d'abattre pour lui le sacrifice de Pessah. Ou Mechoussar qui pourrit. Mechoussar qui pourrit, c'est quelqu'un qui n'a pas encore amené ses sacrifices après sa période d'impureté. Alors, une telle personne, elle non plus, bien qu'elle est pure, qu'elle s'est déjà entièrement purifiée, elle n'aura pas le droit de manger d'autres sacrifices. Et donc, l'Agma nous dit que bien qu'il n'a pas encore amené sacrifice, on aura le droit d'abattre le sacrifice de Pessah pour lui. Alors, on compte sur lui pour offrir les sacrifices dont il a l'obligation d'offrir aujourd'hui, afin que le soir, il puisse manger du sacrifice de Pessah.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante, Daf Tzadi Amud Bet. Ve'en shochatin ve'zorkim at mesheret. Par contre, on n'abat pas le sacrifice de Pessah et on n'en jette pas le temps sur l'autel pour quelqu'un qui est impur en ayant touché un reptile. Étant donné que lui, il est impur, on n'abat pas pour lui le sacrifice de Pessah. Ve'oula Amar et Oula a dit, Av shochatin ve'zorkim at mesheret. On a le droit d'abattre le sacrifice de Pessah et d'en jeter le sang sur l'autel, même pour une personne qui est impure, pour avoir touché un reptile, car il se purifiera, et au soir, il sera pur, et au soir, il aura le droit de manger le sacrifice de Pessah. Alors, la Gemara demande, les Rav, Maishna Tvulyom Dechazé Leurta, d'après Rav, qui a dit que l'on n'a pas le droit d'abattre le sacrifice de Pessah pour quelqu'un qui est impur pour avoir touché un reptile. Alors, quelle différence y a-t-il entre un Tvulyom, une personne qui s'est purifiée le jour même, Et donc, c'est vrai que maintenant, il ne peut pas manger des sacrifices, mais au soir, il sera apte à manger des sacrifices. Mais chérez, n'a m'échazé l'autre, quelqu'un qui est impur pour avoir touché un reptile, au soir de ce jour où il a touché un reptile, il aura aussi la possibilité de manger du sacrifice, car il se purifiera aujourd'hui, il ira s'immerger dans le bain rituel, et au soir, il sera entièrement pur. Alors, ma réponse, non, il y a une différence entre les deux. Mais Roussard, tu vis là. Celui qui est impur pour avoir touché un reptile, il lui manque quelque chose. Il ne s'est pas encore immergé dans le bain rituel. Par contre, un Tvoulium, lui, il s'est, oui, immergé dans le bain rituel. La Gemara demande, Tvoulium nami, mais Roussard, Erev Shemesh. Le Tvoulium aussi, lui manque quelque chose. Il lui manque le coucher du soleil. Car tant que le soleil ne s'est pas couché, bien qu'il s'est immergé dans le bain rituel, il n'est pas entièrement pur. Il n'a pas la possibilité de manger un sacrifice. Donc pourquoi avons-nous le droit d'abattre pour lui le sacrifice de Pessah? La Gemara répond, non, Shemesh, Shimsha, Mimeilarva, le soleil, lui, se couche tout seul. Et donc, c'est sûr que cette personne, après s'être immergée dans le bain rituel, au soir, aura le droit de manger du sacrifice. Par contre, celui-là, celui qui a touché un reptile, il ne va pas s'immerger dans le bain rituel tout seul, mais il faut qu'il aille s'immerger. Et donc, ce n'est pas sûr qu'au soir, il ait la possibilité de manger du sacrifice de Pessah, s'il a oublié, ne s'est pas immergé. Ragmar demande, bon, alors c'est vrai, il y a une différence entre le Tvoulium et celui qui a touché un reptile. Mais quelle différence y a-t-il entre le Mechoussar qui pourrime, celui qui n'a pas amené ses sacrifices, c'est-à-dire qu'il s'est entièrement purifié, le soleil s'est couché après le jour de sa purification, maintenant il lui manque juste à apporter ses sacrifices. Alors lui aussi n'a pas le droit de manger d'autres choses saintes. Alors maintenant, quelle différence y a-t-il entre lui et celui qui a touché un reptile? Dans les deux cas, celui-là aussi, celui qui n'a pas amené ses sacrifices, Namia Mechoussar Kapara, lui aussi il a un problème, c'est qu'il lui manque quelque chose, il lui manque d'avoir amené ses sacrifices, il ne les a pas encore amenés. Et quelle différence est-il entre lui et celui qui a touché un reptile? La Gemara répond, Shekino Beado, ici nous parlons de cas d'une personne dont les oiseaux qu'il doit amener en sacrifice sont déjà entre ses mains. Alors la Gemara nous dit, Mecheret Namia Remik Velefanav, ça aussi on peut comparer à quelqu'un qui a touché un reptile, qui est un peu pour avoir touché un reptile, il a un mikvé, un bain rituel devant lui, et de même que lui a le premier, a ses oiseaux entre ses mains, et donc nous comptons sur lui pour les offrir, celui-là aussi, celui qui est un peu pour avoir touché un reptile, a un mikvé devant lui, et nous comptons sur lui pour s'y émerger. Alors, en répondant, Dilma Pacha, on craint que il faute et qu'il ne s'y émerge pas. Alors, Agma demande, Yachi, c'est ainsi, mais Khusarka para, nami, Dilma Pacha, on peut, à ce propos de quelqu'un qui n'a pas encore offert ses sacrifices, aussi, on peut se dire, peut-être il va fauter, et bien qu'il a ses oiseaux entre ses mains qu'il doit offrir en sacrifice, il ne va pas les offrir. Et donc, le soir, il ne pourra pas manger le sacrifice de Pessah. Ragma répond, Kegon, demasrin ou lebedin. Ici, nous parlons d'un cas où il a déjà donné ses oiseaux au tribunal des Kohanim, des prêtres qui s'occupent de l'offrir. Et donc, à partir du moment où il les a donnés, c'est sûr que ces oiseaux seront offerts. Ou que des Rashmaya, et ça suit l'enseignement de Rashmaya, de Amar qui a dit, Chazaka en bedin shel Kohanim, nous avons une certitude que le tribunal des Kohanim, omdim misham ad shechelum maot sheba shofarot, ne se lève pas de là-bas tant que l'argent des trompes ne se finit pas. C'est-à-dire qu'il y avait au temple des espèces de trompes dans lesquelles chacun qui devait amener des oiseaux en sacrifice, il mettait une somme. Et donc c'était une somme égale, et à la fin, il comptait l'argent qu'il y avait, il savait exactement combien d'oiseaux il devait amener, et il les amenait pour leur propriétaire. Et nous avons une certitude que le tribunal des Kohanim ne s'en allait pas tant que tous les oiseaux n'étaient pas offerts. Et donc à partir du moment où il a déposé ses oiseaux chez les Kohanim, c'est sûr que son sacrifice est offert. Et donc c'est pour cela qu'on aura le droit d'abattre le sacrifice de Pessah pour un Mechoussar qui pourrime, quelqu'un qui n'a pas encore offert ses sacrifices, à partir du moment où il a donné ses oiseaux aux Kohanim. Car à partir du moment où il les a donnés aux Kohanim, c'est sûr qu'ils vont être offerts. Par contre, celui qui est impur pour avoir touché un reptile, lui, ce n'est pas sûr qu'il va se purifier. Alors la Gemara demande où les Rav. Alors d'après Rav, Midoraita Mirzachazé, il en sort que d'après la Torah, quelqu'un qui est impur pour avoir touché un reptile est apte à et peut amener le sacrifice de Pessah, verabanan ou de Gazroubé. Et c'est les sages qui ont décrété qu'il est interdit d'amener le sacrifice de Pessah, de peur qu'il ne faute et qu'il ne se purifie pas et qu'il ne puisse pas en manger. Alors, l'agma demande, c'est ainsi, et Alam, Amarav, alors c'est ainsi, pourquoi Rav a dit que dans le cas où la moitié du peuple est pure et la moitié est impure, et donc il n'y a pas de majorité, et donc il y a une loi qui nous dit que lorsque la majorité du peuple est impure, on a le droit d'offrir le sacrifice de Pessah en état d'impureté. Lorsque la majorité est pure, tous ceux qui sont impurs devront faire Pessah Sheni. Lorsqu'ils sont moitié-moitié, alors Amarav, Rav a dit, Metamim Echad Mehem Besheretz, on rend impur un de ceux qui sont purs avec un reptile. Et donc à ce moment-là, la majorité du peuple devient impure, on a le droit de faire le sacrifice de Pessah en état d'impureté. Alors pourquoi Rav a dit une chose pareille? Elle a l'air, et pourtant d'après Rav, celui qui est impur pour avoir touché un reptile, d'après la Torah, est apte à amener son sacrifice de Pessah. Et donc maintenant, même si on le rend impur en le faisant toucher un reptile, d'après la Torah, il fait encore partie dans la catégorie des gens qui peuvent amener le sacrifice de Pessah, donc ça reste encore moitié-moitié. Donc qu'avons-nous gagné en faisant une chose pareille? Et là, les Rav, alors il faut dire, d'après Rav, Midoraitana, Milochazek. Même d'après la Torah, quelqu'un qui est impur pour avoir touché un reptile ne peut pas amener le sacrifice de Pessah. Dirtiv, car il est écrit, Ish, Ish, qui est amé la Nefesh. Un homme qui sera impur pour avoir touché un mort. Et nous parlons ici dans tous les cas de l'impureté d'une personne qui a touché un mort. Et donc, Milo Askinan, Chechal Shvi, Sheloli, Od, Beref Pessah, ne parlons-nous pas d'un cas aussi où le septième jour de sa purification tombe la veille de Pessah? De Hainu, Tumat Cheret, qui essaie, et ça ressemble au cas d'une personne qui est impure pour avoir touché un reptile, car dans les deux cas, au soir, il sera pur. Et malgré tout, nous avons dit que il n'a pas le droit d'offrir son sacrifice de Pessah. Donc même d'après la Torah, d'après Rav, une personne qui est impure pour avoir touché un reptile ne peut pas offrir le sacrifice de Pessah. Vers Marachmana, la Torah a dit, Nitru, ils seront repoussés à Pessah Sheni. L'agma demande, Vechitema, Mimaidahi. Ici, tu veux me dire, qui me dit que nous parlons dans un cas pareil? Peut-être que nous parlons d'un cas d'une personne qui a touché un mort et qui est impure pour avoir touché un mort, dans tous les cas, sauf le septième jour de sa purification. Car le septième jour de sa purification, on aura le droit d'offrir le sacrifice de Pessah. Qui nous dit que le verset nous parle dans un cas pareil, que nous parlons aussi du septième jour de sa purification? Alors, ma réponse, ça va là, Kerebitrak. Rav, lui, il pense, comme Rabitrak, Dehamar, qui a dit, Tme met mitzvah hayu. Les Béné Israël qui sont venus chez Moshe Rabbeinu lors de la deuxième année, c'est-à-dire la première année qu'ils étaient dans le désert et qu'ils ont eu l'obligation de faire le sacrifice de Pessah, alors il y a un groupe de personnes qui étaient impures et qui sont venues voir Moshe Rabbeinu et ils lui ont dit « Nous, on ne peut pas offrir, qu'allons-nous faire ?» Alors Rabbi Yitzhak a dit que ces personnes-là qui sont venues offrir, qui sont venues parler à Moshe Rabbeinu et lui demander quoi faire, alors ils étaient Tmeim et Musa, ils étaient impurs pour avoir enterré quelqu'un qui n'avait personne pour l'enterrer. « Shechal Shvi Shelahen Liot Beref Pessah » Et le septième jour de leur purification tombait la veille de Pessah. Chez Neymar, comme il est dit, Velo yachlo la asot a Pessah bayomahu. Et ils ne pouvaient pas faire le sacrifice de Pessah ce jour-là, c'est-à-dire la veille de Pessah. Et de là, nous apprenons, bayomahu den yanicholin. C'est ce jour-là qu'ils n'ont pas pu faire le sacrifice de Pessah. Aval le machar yacholin la asot. Mais le lendemain, ils auraient pu faire le sacrifice de Pessah. Donc en fait, c'était le septième jour de leur purification. Vehamar rachmana, la Torah a dit qu'ils seront repoussés à Pessah Sheni. Nitru, ils seront repoussés à Pessah Sheni. Donc de là, nous apprenons que même quelqu'un qui, au soir, sera pur, étant donné qu'au moment de la purification, il n'est pas apte à manger du sacrifice de Pessah, on ne pourra pas offrir pour lui le sacrifice de Pessah. Et donc il en sera de même pour quelqu'un qui est impur pour avoir touché un reptile. C'est vrai qu'au soir, il aura la possibilité de manger le sacrifice de Pessah, mais étant donné que maintenant, il ne peut pas le manger, donc il s'appelle qu'il n'est pas apte, on ne pourra pas offrir pour lui le sacrifice de Pessah. L'Agma nous dit, Nan, nous avons enseigné dans une Mishnah, Zav, dans la Mishnah, Zav, Sherash, Tereyot, un homme qui a eu deux écoulements, et donc qui est impur durant sept jours, Shuchatin, Alav, Bashvi, on a le droit d'abattre pour lui le sacrifice de Pessah, le septième jour de sa purification. Alors, Maïlav, n'est-ce pas, Delotavil, qu'il ne s'est pas encore immergé dans le bain rituel. Et malgré tout, on a le droit d'offrir pour lui le sacrifice de Pessah. Veshmamina, donc ça sous-entend ici, Shochatin vezorkim mat mesheret, que l'on a le droit d'abattre le sacrifice de Pessah et d'en jeter le sang sur l'autel pour une personne qui est impure, pour avoir touché un reptile. Car en fait, le septième jour de la purification d'un Zav, et avant qu'il ne se purifie, c'est le même degré d'impureté, c'est la même sorte d'impureté que quelqu'un qui est impur pour avoir touché un reptile, car dans les deux cas, il faut qu'il s'immerge dans le bain rituel pour se purifier, et au soir, ils seront purs. Et donc, malgré tout, nous voyons dans la Mishnah qu'on a le droit d'abattre pour lui le sacrifice de Pessah. La Gemara répond, non, d'état vil. Nous parlons ici d'un cas où ce zav s'est déjà immergé dans le bain rituel, et donc c'est pour ça qu'on a le droit d'abattre le sacrifice de Pessah, et ça ne ressemble pas au cas de quelqu'un qui est impur pour avoir touché un reptile. Alors que ma demande dit, ah, ici il s'est immergé dans le bain rituel, maïka mashmalan, qu'est-ce que la Mishnah vient nous apprendre? C'est évident, il s'est immergé dans le bain rituel, donc il est pur. S'il est pur, c'est sûr qu'on a le droit d'abattre pour lui le sacrifice de Pessah. L'Agma nous dit, ah, kamashmalan, ça vient nous apprendre, d'afalgav de mechusar a erev shemesh. Ça vient nous apprendre que bien qu'il lui manque le coucher du soleil, et tant que le soleil ne s'est pas couché, il n'a pas le droit de manger de sacrifice. Kamashmalan de shimshamimelar. Ça vient nous apprendre que étant donné que le soleil, lui, de toute façon, se couche, et automatiquement il se couche, alors, bien que le soleil ne s'est pas encore couché, on aura le droit d'abattre pour lui le sacrifice de Pessah, et au soir il le mangera. Achana mimistavra, et c'est aussi logique d'expliquer comme ça, midektan et sefa, parce que nous avons signé dans la fin de cette Mishnah, Ra shalosh riyot, s'il a eu 3 écoulements, shochatin alav bashmini, on a le droit d'abattre pour lui le sacrifice de Pessah le 8e jour de sa purification, c'est-à-dire après ces 7 jours de purification, le 8e jour, le jour où il amènera ses sacrifices, on aura le droit d'abattre pour lui le sacrifice de Pessah. Alors comment pouvons-nous prouver de là que le début de la Mishnah nous parle d'un cas où il s'est déjà immergé? Alors la Gemara explique. Yamad bishlam azav shirash teriot shochatin alav bashvii detavil. Je peux comprendre si tu me dis que le cas qui est mentionné dans la Mishnah d'une personne qui a eu 2 écoulements, alors on a le droit d'abattre pour lui le sacrifice de Pessah le 7e jour. Nous parlons d'un cas où il s'est immergé dans le bain rituel et s'est déjà purifié et itérir. Alors c'est pour cela que nous avons besoin de citer le cas d'une personne qui a eu 3 écoulements. Pourquoi? Ça, le cas d'Ataramina, j'aurais pu penser dire Rash teriot bashvii ou de l'omechusar maase. Que s'il a eu 2 écoulements, et le 7e jour, après s'être immergé, il ne lui manque plus rien à faire. Et donc, puisqu'il ne lui manque plus rien à faire, alors c'est pour cela qu'on a le droit d'abattre pour le sacrifice de Pessah. Aval ra shalosh bashmini, demechusar maase. Par contre, qu'une personne qui a eu 3 écoulements, et donc le 8e jour, il lui manque quelque chose à faire, il doit amener mechusar kapara, il lui manque à amener ses sacrifices. Alors j'aurais pu penser que l'eau, qu'on n'a pas le droit d'abattre pour lui le sacrifice de Pessah, Kamashman, c'est ce que la Mishnah vient nous apprendre, d'Afalga de Mechusar Kapara, que bien qu'il lui manque d'apporter ses sacrifices, qu'il ne les a pas encore apportés, Shochatin Vezorkin Ilouye, on a le droit d'abattre le sacrifice de Pessah et d'en jeter le sang sur l'autel pour lui, bien qu'il n'a pas encore amené ses sacrifices. Et donc c'est pour ça qu'on avons besoin des deux parties de la Mishnah. Et là, Yamadra, Shteriot Bashvi, Delotavil, mais si tu me dis que le cas mentionné dans la Mishnah qui nous dit que si un homme qui a eu 2 écoulements, nous parlons du 7e jour avant qu'il ne s'immerge dans le bain rituel, et on a le droit d'abattre pour lui le sacrifice de Pessah. Pourquoi avons-nous besoin de mentionner le cas d'une personne qui a eu 3 écoulements le 8e jour? Hashtag, parce que si déjà Yeshlomar Ashteriot Bashvi Delotavil Detamemaliaou, si déjà une personne qui a eu 2 écoulements le 7e jour avant qu'il ne s'immerge, il est entièrement impur, et malgré tout Shartinan Bezarkinan Ilouye, on peut abattre pour lui le sacrifice de Pessah et en jeter le sang sur l'autel. Alors Ashalosh Bashmini Detavil Bashvi. Alors dans le cas d'une personne qui a eu 3 écoulements, qui s'est déjà purifié dans le bain rituel, le 7e jour, des klishatouma, et donc maintenant, son impureté est faible, car en fait, il est entièrement pur, il lui reste juste à apporter ses sacrifices. Lo kol sheken, de shartinan vezarkinan ilouye, n'est-ce pas à plus forte raison que l'on abat pour lui le sacrifice de Pessah qu'on en jette le sang sur l'autel? Alors pourquoi avons-nous besoin de mentionner le cas d'une personne qui est impure, avec 3 écoulements? C'est évident. Et la lave, alors n'est-ce pas? Alors ça vient nous dire qu'en fait, de là ça sous-entend que le cas d'une personne qui a eu 2 écoulements et qu'on a le droit d'abattre pour lui le sacrifice de Pessah le 7e jour de sa purification, nous parlons d'un cas où il s'est déjà immergé dans le bain rituel. Alors on va répondre, non, ça c'est pas une preuve. Je pourrais toujours t'expliquer dans la Mishnah que nous parlons d'un cas où il ne s'est pas encore immergé dans le bain rituel et ne s'est pas purifié. Alors si c'est ainsi, pourquoi avons-nous besoin de mentionner le cas d'une personne qui a eu 3 écoulements qu'on a le droit d'abattre pour le sacrifice de Pessah le 8e jour? Et nous avons besoin du cas d'une personne qui a eu 3 écoulements. Pourquoi? Alors j'aurais pu penser que seulement le 7e jour, étant donné qu'il est entre ses mains de s'arranger, c'est-à-dire de se purifier, alors on a le droit d'abattre pour lui le sacrifice de Pessah. Aval bashmini den beyado la kib korban, mais le 8e jour qui n'est pas entre ses mains d'offrir son sacrifice, car c'est les Kohanim qui offrent pour lui le sacrifice. Alors j'aurais pu penser, il m'a pas chez les Kohanim, j'aurais pu penser que les Kohanim ne vont pas offrir pour lui le sacrifice, et donc au soir, il ne pourra pas manger le sacrifice de Pessah. Et donc c'est pour cela que même le huitième jour, bien qu'il s'est déjà purifié la veille, j'aurais pas le droit d'abattre le sacrifice de Pessah pour une telle personne. Ça vient nous apprendre que non, quand l'enseignement de Rashmaïa, qu'à partir du moment où on a donné les oiseaux aux Kohanim, c'est sûr qu'ils vont l'offrir. Et donc on ne craint pas une chose pareille, et donc même le huitième jour, on aura le droit d'abattre pour une telle personne le sacrifice de Pessah, car au soir, c'est sûr qu'il pourra, il aura le droit d'en manger. La Gemara nous rapporte maintenant un extrait de la Mishnah. Vehazava shochatin vechule. Et une femme qui a eu un écoulement durant 3 jours, et donc qui est impure durant 7 jours, et au 8e jour devra amener un sacrifice, alors on aura le droit d'abattre pour elle le sacrifice de Pessah le 8e jour, c'est-à-dire le jour après où elle est devenue pure, le jour où elle amène ses sacrifices. La Gemara nous dit, Tane Tana kame de Ravada Barava. Un Tana enseigné devant Ravada Barava. Vehazava shochatin alea bashvi shela. Et une femme qui a eu un écoulement durant 3 jours et qui est impure durant 7 jours et au 8e devra amener son sacrifice, on aura le droit d'abattre pour elle le sacrifice de Pessah le 7e jour de sa purification. Amarle, alors il lui a dit, Zava bashvi shela michazia. Une Zava, le 7e jour de sa purification, est-elle apte à manger le sacrifice de Pessah? Mais au même au soir, elle n'aura pas la possibilité de manger le sacrifice de Pessah. Même d'après celui qui a dit qu'on a le droit d'abattre le sacrifice de Pessah pour quelqu'un qui est impur pour avoir touché un reptile, ce n'est le cas que pour quelqu'un qui est impur pour avoir touché un reptile, qui au soir aura la possibilité de manger le sacrifice de Pessah car au soir il sera purifié. Ah, mais cela ad le machar de matia kapara, jusqu'au lendemain qu'elle amène son sacrifice, l'ochadia, elle n'est pas apte à manger du sacrifice de Pessah. Et donc, pourquoi avons-nous le droit d'abattre pour elle le sacrifice de Pessah? Alors, l'agma nous dit, ima, il faut dire, bashmini, ce n'est pas le 7e jour de sa purification qu'on a le droit d'abattre le sacrifice de Pessah pour elle, mais le 8e jour. L'agma demande, chita, c'est évident que le 8e jour on a le droit. L'agma dit, non. Mao de teima, j'aurais pu penser dire, que ben de mechasra kaparalo, que étant donné qu'il lui manque ses sacrifices, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore amené ses sacrifices, et donc que pour l'instant, elle n'est pas apte à la consommation du sacrifice de Pessah, c'est vrai que plus tard, si elle amène ses sacrifices, elle pourra le manger. Étant donné que pour l'instant, elle ne les a pas amenés, alors on n'a pas le droit d'abattre le sacrifice de Pessah, Kamashmaya, c'est ce que ça vient nous apprendre, qui est des Rashmaya. L'enseignement de Rashmaya, c'est-à-dire que du moment qu'elle a donné ses sacrifices au Kohen, c'est sûr que ses sacrifices vont être abattus, et donc c'est pour ça qu'on a le droit d'abattre pour elle le sacrifice de Pessah. Ravina Amar, Ravina a dit, Nida Tanakame, ce Rav qui a parlé devant Ravada Barava ne parlait pas d'une Zava au 8e jour, mais il parlait d'une Nida, une femme qui a eu ses règles, au 7e jour de sa purification. Et comment il enseignait? Vanida Shokhatin Alea Bashvi. Et la Nida, une femme qui a eu ses règles, on a le droit d'abattre pour elle le sacrifice de Pessah le 7e jour de sa purification. Car d'après la Torah, une Nida n'a pas besoin de compter 5 jours et 7 jours comme on le fait aujourd'hui, mais seulement 7 jours, et au 7e jour, elle aura le droit de se purifier. Et donc, le 7e jour de sa purification, on aura le droit d'abattre pour elle le sacrifice de Pessah. Amarle, alors il lui a dit, Nida bashvi michazia, une Nida, le 7e jour de sa purification, est-elle apte à consommer le sacrifice de Pessah au soir? Afilo le manda marchokhatim vetorzokinat mesheret, c'est pas possible, car même d'après celui qui a dit qu'on a le droit d'abattre le sacrifice de Pessah et d'en jeter le sang sur l'autel, pour une personne qui est impure pour avoir touché un reptile, dechazelota, car cette personne qui est impure pour avoir touché un reptile, au soir, aura la possibilité de manger le sacrifice de Pessah. Avalnida, mais une femme qui a eu ses règles, leota deshvi ou detavla, elle ne pourra s'immerger dans le bain rituel qu'au soir du 7e jour de sa purification. Et donc, achmini de avda erev shemesh, et donc jusqu'au coucher du soleil du 8e jour, l'ochadia, elle n'est pas apte à manger des sacrifices, car elle s'appelle Tvulium, une personne qui s'est purifiée le jour même, et un Tvulium n'a pas le droit de manger du sacrifice de Pessah. Donc une femme, le 7e jour de sa purification, pourquoi on peut abattre pour elle le sacrifice de Pessah? Au soir, elle n'aura pas la possibilité d'en manger. Alors ma réponse est laïma, alors il faut dire non, bashmini, que c'est le 8e jour de sa purification qu'on a le droit d'abattre pour elle le sacrifice de Pessah, mais pas le 7e jour. Alors ma demande si c'est ainsi, pshita, c'est évident. Ashta ou mazava de michasra kapara shochatin vizorkin alea bashmini. Car si déjà l'azava, une femme qui a eu un écoulement en dehors de sa période de menstruation, et donc qui est impure durant 7 jours, et au 8e jour elle devra amener son sacrifice, et bien qu'elle n'a pas amené son sacrifice, on a le droit d'abattre pour elle le sacrifice de Pessah et d'en jeter le sang sur l'autel. Nida de l'homme michasra kapara, alors une nida qui n'a pas besoin d'amener de sacrifice. Srira les mémars, avons-nous besoin de dire que l'on a le droit d'abattre pour elle le sacrifice des chartinan vezarkinan ala, qu'on a le droit d'abattre pour elle le sacrifice et d'en jeter le sang sur l'autel? La Gemara répond, Nida et Srira. Non, on a besoin de dire spécialement à propos de Nida que l'on a le droit d'en jeter le, d'abattre pour elle le sacrifice le 8e jour. Pourquoi? Hakamashan, ça vient nous apprendre, Bashmini in, Bashvihilo, que le 8e jour on a le droit d'abattre pour elle, mais pas le 7e jour. Qui détaille, comme ce que nous avons enseigné, Kol chayvet tvilot tvilatan bayom, tous ceux qui ont l'obligation de se purifier et de s'immerger dans un rituel, ils s'immergeront en journée. Nida veyoledet tvilatan balayla. Mais la nida, la femme qui a eu ses règles, et la yoledet, la femme qui a accouché, lorsqu'elles se purifieront, elles iront s'immerger la nuit. Détanya, comme quand nous avons enseigné dans une boîte, yechol teto velet mibodiom, j'aurais pu penser qu'elle a le droit de se tremper lorsqu'il fait encore jour. Talmud Omar, le verset nous dit, Shivat yamim tiye benidata. Durant 7 jours, elle aura sa période de nida. Et donc, tiye benidata kol shiva. Durant 7 jours, elle sera en période de nida. 7 jours complets. Donc, c'est que au soir du 7e jour qu'elle aura le droit de se purifier. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'abattre pour elle le sacrifice de Bessar, le 7e jour de sa purification. Veyoledet itkish le nida. Et la femme qui a accouché était juxtaposée à la nida. Et de même que celle-là se trempe seulement au soir, celle-là aussi se trempera seulement au soir. Et nous avons fini ici le shiur de Daf Tzadi.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.